problème. Pas de question. Très bien. D'où alors, ce qu'on a vu, c'est là je vais recommencer, que je vais récapituler. Ce qu'on a vu, c'est ce qui se passe, si vous voulez, sur la formation historique du XVIIe siècle. Sur la formation historique qu'on appelle classique. Et le schéma que l'on croyait repérer chez Foucault, c'est celui-ci. Les forces dans l'homme, au sens où je viens de le dire, qui ne présupposent aucune forme, entrent en rapport avec des forces du dehors. Ces forces du dehors, je vous proposais de les appeler forces d'élévation à l'infini. Ça suppose beaucoup, ça soulève beaucoup de problèmes que on a vaguement résolus. Pourquoi les forces d'élévation à l'infini, premier problème, sont-elles des forces du dehors, extérieures aux forces de l'homme, dans l'homme? La réponse est simple, c'est que l'homme est une créature finie. S'il découvre en lui une force d'élévation à l'infini, elle ne peut pas venir de lui. Remarquez que ce que je retrouve ici, c'est à la lettre une des preuves de l'existence de Dieu. Une des preuves de l'existence de Dieu est célèbre au XVIIe siècle sous la forme « L'homme a le pouvoir de concevoir l'infiniment parfait » c'est-à-dire d'élever la perfection à l'infini. Il ne peut pas lui-même rendre compte de ce pouvoir puisqu'il est fini. Donc il y a un être infini. Vous voyez cette preuve qui est très jolie, qui emporte l'adhésion unanime. Parfaite. Mais elle repose précisément sur ceci. S'il est vrai qu'il y a une force d'élévation à l'infini, l'homme ne peut pas en rendre compte. C'est une force du dehors. Donc Dieu existe. Pourquoi autre problème, dont je viens d'expliquer très vite en quoi les forces d'élévation à l'infini ne pouvaient pas être dites des forces appartenant à l'homme, c'était bien des forces du dehors. Deuxième problème. Pourquoi le pluriel? Pourquoi des forces? Parce que je vous disais, s'il fallait caractériser la pensée classique, hein, je crois qu'il faudrait la caractériser en disant c'est une pensée qui n'a pas cessé de se proposer, de distinguer des ordres d'infini. Le classicisme, c'est comme le grand heurte de la pensée avec l'infini. Et la seule manière pour la pensée de penser l'infini, c'est d'y mettre de l'ordre et de distinguer des ordres d'infinité. Bon, je reviens pas là-dessus. Ces ordres d'infinité sont fondés sur quoi ? Simplement. C'est que, suivant la pensée du XVIIe siècle, toute chose est comme un mixte de réalité et de limitation. C'est-à-dire, toute réalité égale perfection, c'est un mixte de perfection et de limitation. Toute perfection est élevable à l'infini. Toute perfection en tant que telle est élevable à l'infini. Mais, suivant la nature de la limitation qui la borne, toutes ne seront pas élevables au même ordre d'infini. D'où à nouveau les distinctions entre ordre d'infini, l'infini par soi, l'infini par sa cause, l'infini entre des limites, etc., etc. Mais ces trois-là étant les trois grands ordres d'infini que le XVIIe siècle. doux, qu'est-ce que ce sera ? Penser, ce sera réellement élevé à l'infini qui convient. C'est une réponse à qu'est-ce que penser. C'est même une des plus belles réponses qui soient. C'est une réponse grandiose qui fonde la philosophie du XVIIe siècle. Penser, c'est élever quelque chose à l'infini qui lui convient. Si bien que penser Dieu, c'est penser l'infiniment parfait ou l'infini par soi. Mais penser le monde, c'est penser l'infini par sa cause. Penser les choses, c'est penser l'infini compris entre des limites. C'est une très belle conception de la pensée. Et vous remarquerez que, si l'on revient au problème toujours du XVIIe siècle, qui multiplie les preuves de l'existence de Dieu, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait tellement de preuves, puisque on peut deviner d'avance que une preuve de l'existence de Dieu correspondra à chaque ordre d'infinité. Il y a une preuve la plus célèbre et la plus noble, la plus haute, qui est dite preuve ontologique, et qui procède par l'infini par soi-même. Je conçois un être infiniment parfait, donc cet être existe. Ça, c'est une preuve qui procède par l'infini par soi. Mais vous avez non moins une preuve dite cosmologique, qui remonte du monde à Dieu, cette fois-ci. Ça, c'est une preuve qui repose sur l'infini par sa cause. Vous avez une preuve qui sera nommée classiquement physico-téléologique. Ça, ce sera une preuve qui repose sur l'infini compris entre des limites. À chaque ordre d'infinité correspondra une preuve de l'existence de Dieu. Or, je dis, dans une telle conception de la pensée, où pensée s'est élevée à l'infini, voyez bien que le mouvement de cette pensée, la géologie de cette pensée, c'est le dépli. Élevée à l'infini, c'est développer. C'est développer. C'est dépli. Un des grands précurseurs de la pensée classique s'appelait Nicolas de Cuse et était cardinal. Et le cardinal de Cuse dit, mais c'est une formule très classique, très 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 fréquente, Dieu c'est l'universelle explication. Dieu c'est l'universelle explication. La formule ne se comprend, il parle latin, Nicolas de Cuse, la formule ne se comprend si vous prenez au sérieux, c'est-à-dire à la lettre. Explication. Expliquer, c'est déplier. Si je déroule un tapis, j'explique le tapis. C'est-à-dire, je le déplie. C'est une pensée du dépliement. Et voilà pourquoi, alors là je rejoins la lettre du texte de Foucault, qui lui s'intéresse au dernier ordre d'infini, c'est-à-dire l'infini des choses créées, l'infini des créatures. Voilà pourquoi la pensée du XVIIe siècle, nous montre-t-il dans les mots et les choses, procède par développement de tableaux suivant des continuums. Le continuum étant précisément le dernier ordre d'infini. Et ce sera le tableau des richesses, avec un continuum de richesses. Et ce sera le tableau des êtres vivants, le continuum de l'histoire naturelle. Les séries, Au niveau de la créature, ce serait une pensée par continuum et par série. La série des richesses est le tableau de la circulation. La série des êtres vivants. La série des racines, à propos du langage, partout se développeront, se déplieront des tableaux. Alors il ne s'agit pas de dire que dans cette formation historique, il ne s'agit évidemment pas de dire que l'homme n'existe pas. Bien plus, on est parti des forces existant dans l'homme. Forces de concevoir, d'imaginer, etc. Auxquelles correspondaient des ordres d'infini. Il y a un infini de l'imagination qui n'est pas le même que l'infini de l'entendement. Seul l'infini de l'entendement est un infini par soi. Bon, tout ça, on ne peut pas recommencer, mais il ne s'agit pas de dire que l'homme n'existe pas. Il s'agit de dire, au XVIIe siècle, dans la formation classique, les forces dans l'homme entrent en rapport avec des forces d'élévation à l'infini. Sous le mouvement, ou sur le mouvement géologique, archéologique, du dépli, du développement. Problème, quelle est la forme qui découle de ce composé de forces? Les forces dans l'homme se composent avec des forces d'élévation à l'infini. Question, quelle forme en découle? Quelle forme découle de ce composé précis? La réponse, on l'a vu. C'est pas la forme homme, il n'y a pas de forme homme. Et c'est tout un aspect de la thèse de Foucault. À l'âge classique, il n'y a pas de forme homme. Évidemment, l'homme existe. Mais il n'y a pas de forme homme. Pourquoi? Parce que la forme composée qui découle du rapport des forces dans l'homme avec des forces du dehors, d'élévation à l'infini, c'est évidemment la force, la forme Dieu. Et l'homme ne sera posé que comme la limitation de Dieu. L'entendement infini, né l'entendement fini de l'homme, n'est que la limitation de l'entendement infini. Toujours l'infini premier par rapport au fini, comme dans la formule de Descartes. Donc ce qui découle du composé des forces, c'est la forme Dieu. Qui revient à dire, la pensée au XVIIe siècle a pour mission suprême de déplier, de développer. Or, le développement suprême, ou comme dit Cuse, l'universelle explication, l'universel dépli, c'est Dieu. Dieu, il ne cesse de déplier. Dieu ne supporte pas les plis. Pourquoi il ne supporte pas les plis? Dieu, c'est la plus prodigieuse mise à plat. Il ne supporte pas les plis parce que c'est l'abri du méchant. Sous les plis, il y a toujours qu'un. Dieu, il déplie. C'est sa manière de pourchasser le méchant. Il sonde. Sonder. Il sonde. Sonder, c'est déplier, c'est développer. Et, quand dans un autre livre, c'est tellement ça hante, tellement Foucault, cette idée du dépli, comme mouvement géologique de la pensée classique, que dans un livre qui précède les mots et les choses, vous trouvez constamment le thème. La clinique, comme invention de l'âge classique, dans l'histoire de la médecine, qu'est-ce que fait la clinique? Elle déplie les symptômes sur des plages à deux dimensions. Dieu fait de la clinique. Sous le regard de Dieu, on est déplié. Alors, reviens. C'est ça un classique, toi. C'est ça que vous reconnaissez un classique. Alors, vous comprenez peut-être l'histoire des sols archéologiques chez Foucault. Une pensée peut nous être très proche et très très moderne. Je veux dire, je pense à Pascal. Et si proche qu'il nous soit, si moderne soit-il, la question à quel sol archéologique appartient-il ne peut être réglée, je crois, que dans la mesure où l'on montre en quel sens il appartient bien à l'âge classique. Et en effet, il me semble toujours très imprudent, par exemple, de faire de Pascal une sorte de moderne. S'il est proche de nous, c'est à force d'être classique, et parce que l'âge classique a quelque chose à nous dire et continue à avoir quelque chose à nous dire. Mais c'est très imprudent au nom, par exemple, d'une espèce d'angoisse pascalienne, d'en faire un moderne. Car encore une fois, l'angoisse de Pascal, c'est une angoisse de l'infini, qui est strictement à l'opposé des formes modernes de l'angoisse. C'est une angoisse de l'infini, bien plus, c'est une angoisse des ordres d'infinité. S'il y a un penseur classique au sens de la distinction des ordres d'infinité, c'est Pascal. Et l'effort, vraiment l'effort angoissé, l'effort terrifié pour se débrouiller et trouver un chemin dans les ordres d'infinité, c'est Pascal. Dès lors, si l'on définit comme ça la pensée classique, on est apte à comprendre, par exemple, que loin d'être une pensée de la mesure, elle est une pensée dont le strict envers, dont le complémentaire, c'est le baromètre. Il n'y a aucun lieu de faire une opposition entre le classique et le baroque. L'un est strictement l'envers de l'autre. Et ils appartiennent tous les deux au même sol archéologique. Bien. Alors, on a vu la dernière fois en quoi il y avait une mutation quand on passe au XIXe siècle. Ah oui, pensez, et là encore, comprenez que ce serait stupide de se dire, ah ben, qu'est-ce qui vaut le mieux? Qu'est-ce qui vaut le mieux pour... Il n'y a jamais rien qui vaille mieux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne veut rien dire, tout ça. Il se trouve que penser change d'orientation. C'est plus le même mouvement. C'est très curieux la pensée, à partir du XIXe siècle. Et c'est ce que j'essayais de développer la dernière fois, mais vraiment, là, je voudrais insister en espérant que ça dira quelque chose à certains d'entre vous. Tout se passe comme si penser, c'était une tentative. Ils vont plier. Les grands penseurs du XIXe siècle, ils ne cessent de plier et replier. Ce qui veut dire quoi ? Vous le trouvez dans le style de Foucault aussi. Chaque fois qu'il parle du pli, il invoque également l'épaisseur. Faire des épaisseurs. Penser, c'est faire des épaisseurs. C'est rendre épais. Ou bien, nous dit-il, le mot qui renvoie épaisseur revient tout le temps dans les mots et les choses. Mais à propos de la formation du XIXe siècle. Le XIXe siècle, nous dit Foucault, découvre l'épaisseur de la vie, l'épaisseur du langage. Eh bien, c'est constituer des épaisseurs de pensée. C'est plus du tout mettre à plat, c'est plus du tout développer, déplier. C'est plier, plier, faire naître une profondeur. Et de même qu'il emploie constamment le mot épaisseur, il emploiera presque comme un synonyme le mot creux. Creux. Il y a une épaisseur du langage, mais aussi bien un creux du langage. Et l'épaisseur et le creux fonctionnent chez Foucault comme deux synonymes. Pourquoi ? C'est deux résultats du pli. Plier, c'est rendre épais. Je plie, mais c'est au sens, c'est tout ça, vous voyez, je plie là. Bon. Comme ça. Voilà, je pense. Mais je pense aussi, et je pense à l'admirable manière des classiques lorsque je fais. Et là, vous ne vous en rendez pas compte, mais je viens de prouver l'existence de Dieu. Alors, bien, ce 19e siècle donc va être une pensée fondamentalement du pli et du repli. Ce qui veut dire quoi? On l'a vu. Les forces dans l'homme. Et c'est ça la mutation. La mutation, c'est lorsque les forces dans l'homme entrent en rapport avec de nouvelles forces du dehors. À ce moment-là, vous direz, il y a changement de sol archéologique, il y a mutation. Eh bien, au lieu d'entrer en rapport avec des forces d'élévation à l'infini, voilà que, dans le courant du autour de la moitié du 18e, et avec le 19e, les forces dans l'homme entrent en rapport. Non plus avec des forces d'élévation à l'infini, mais avec les forces de finitude. C'est un nouveau composé. Et encore une fois, bien sûr, les forces de finitude existaient au XVIIe siècle. Mais elles étaient comprises dans la pensée du XVIIe siècle comme de simples forces de limitation. Or, les forces de limitation n'empêchaient nullement le déploiement à l'infini ou l'élévation à l'infini. Tandis que là, il y a rencontre avec des forces de finitude qui ne se laissent plus comprendre comme de simples limitations, mais qui sont de véritables forces d'opposition têtues, épaisses. Ce n'est plus limitation, ce sont des oppositions. C'est la découverte de l'opposition réelle au lieu de la limitation logique. C'est, suivant le vocabulaire de Kant encore jeune, la découverte des grandeurs négatives. Ou des quantités négatives. Les forces de finitude. Et de même qu'il y avait tout à l'heure des ordres d'infinité au niveau du 17e, il y a des forces de finitude différentes, avec lesquelles les forces dans l'homme vont se composer. On a vu qu'il y a trois forces de finitude fondamentales: la vie, le travail, le langage. Et voilà donc que je peux dire les forces dans l'homme, au lieu de se déplier en s'élevant à l'infini, par élévation à l'infini, au lieu de se développer à l'infini, elle s'enveloppe, elle se plie sur les forces de finitude. Et voilà que se composant avec les forces de finitude, les forces dans l'homme vont suivre un pli. Elles vont constituer comme une espèce d'hélice autour des forces de la finitude, et elles vont s'enfoncer en suivant les forces de finitude dans d'horribles épousailles qui remplacent les épousailles avec Dieu. Maintenant, l'homme va épouser le travail dans sa finitude, le langage dans sa finitude, la vie dans sa finitude. Et partout, il ne s'agit plus que de pli. Comment, je vous disais à propos de Ricardo et Marx, comment le travail se plie sur le capital, se replie sur le capital, ou inversement, comment le capital se plie et se replie sur le travail extorqué. Et j'insistais la dernière fois, mais là je vous rappelle parce que ça me paraît patent, que la biologie naissante au XVIIe siècle, un point sur lequel Foucault a raison plus encore qu'il ne le dit, que si vous regardez toute cette naissance de la biologie à partir de Cuvier, à la fin du 18e et au 19e, de quoi est-il question à la lettre? Il est toujours question à propos du vivant, il est question des plis possible ou impossible. Il est question d'opération de pliage. Et si je prends, encore une fois, je ne l'ai peut-être pas dit assez, si je prends une polémique qui a parcouru le début de la biologie, c'est quoi? C'est savoir si, oui ou non, vous pouvez passer d'un vivant à un autre, d'une organisation à une autre, en pliant. Et les uns diront non, vous ne pouvez pas passer par en pliant. Les autres diront si, vous pouvez passer par. Vous pouvez passer d'une forme animale à une autre par des pliages. C'est une grande pensée du pliage. Les choses se replient toujours, les choses se plient. Penser, c'est plier. Et encore une fois, c'est là où Foucault a trop raison. Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, appartiennent au même sol archéologique. Pourquoi? Parce que l'un dira, la proposition fondamentale de Cuvier, c'est il y a des plans d'organisation de la vie qui sont irréductibles les uns aux autres, si bien que vous ne pouvez pas passer d'un plan à un autre. Pourquoi? Parce que chaque plan se définit par une forme de pliage irréductible. Et Geoffroy Saint-Hilaire dira, d'un plan à un autre, vous pouvez toujours passer, si bien qu'il y a un seul et même plan de composition à travers tous les plans d'organisation, parce que par pliage, vous pouvez toujours passer. Et la polémique culmine, alors comme toutes les polémiques, elle a ses côtés très sérieux et puis ses côtés tout à fait amusants. On ne peut pas explorer un siècle sans tomber dans les choses qui sont très amusantes, relativement amusantes. Je vous dis, il y a un livre extraordinaire, si vous avez l'occasion de le regarder dans une bibliothèque, c'est La philosophie, esquisse, je crois, peu importe, Philosophie zoologique de Geoffroy Saint-Hilaire, où il y a réuni toute sa polémique avec Cuvier. Et je vous le disais, il s'agit de savoir si on peut passer. Si on peut passer par pensée du vertébré, qui a un plan d'organisation de vie, au céphalopode, qui a un autre plan d'organisation de vie. Exemple de céphalopode, pour que vous voyez la complexité du problème, peut-on passer du vertébré au céphalopode, c'est la sèche, ou le poulpe. Le poulpe, c'est un très beau céphalopode, c'est un des plus beaux céphalopodes. La sèche, c'est bien aussi. Bon, à première vue, c'est pas facile. Et voilà que Geoffroy Saint-Hilaire donne sa recette de pliage pour passer. Voyez ce que ça pose, quel problème ça traîne, ça, cette question. C'est, oui, si vous définissez le vertébré par un plan d'organisation, c'est le grand concept d'organisation vitale qui est apparu au 19e, si vous définissez le vertébré par un plan d'organisation, le céphalopode par un autre plan d'organisation, est-ce que ces plans d'organisation sont irréductibles ou pas? Est-ce que je peux parler d'un seul plan de composition de la vie, ou au contraire, est-ce que la vie est fragmentée en plans d'organisation irréductibles? Voilà que Geoffroy nous donne la recette de pliage pour passer du vertébré au céphalopode. Et il y a un texte de Cuvier qui me paraît un des textes les plus comiques de toute l'histoire de la biologie, où Cuvier dit « J'ai essayé, c'est pas vrai, immense. » La recette qu'il nous donne, ça ne nous fait pas du tout passer. Alors Geoffroy Saint-Hilaire, il est quand même embêté. Il dit « Oui, ça ne marche pas en fait, mais ça marche en droit. » Et pourquoi ça ne marche pas en fait? Là, il dit, c'est parce qu'il faut distinguer, outre les plans d'organisation de la vie, il faut distinguer les degrés de développement. C'est parce que le poulpe et le vertébré n'ont pas le même degré de développement que l'on ne peut pas passer par pliage. Donc, il reconnaît que son pliage ne marche pas. Mais il maintient que son pliage marche si les degrés de développement sont les mêmes, sur deux plans d'organisation. C'est donc très compliqué, mais très intéressant. C'est une méthode de pliage. Et je dirais la même chose, l'économie politique, c'est le repli des richesses sur le travail, les richesses vont cesser de constituer un tableau à l'infini, un continuum des richesses, comme au XVIIe siècle, pour se replier sur la source de leur finitude. Et la terre elle-même, Foucault le montre très bien dans une belle page sur Ricardo, la terre elle-même, qui était pour le XVIIe siècle un ordre d'infinité, évidemment un ordre dérivé, un infini par sa cause, qui était un ordre d'infinité, se définit au contraire par sa finitude radicale, son avarice. La terre est devenue non pas la riche, elle est devenue l'avare. D'où le pessimisme de Ricardo, d'où le pessimisme de toute l'économie politique. Et donc, vous voyez, je ne vais pas reprendre toutes les analyses de détail qu'on a fait la dernière fois, je dis juste, retenez cette chose que, dont je voudrais qu'il y ait des confirmations un peu partout. À savoir, la formule du 19e, ce sera, ben oui. Voilà que les forces dans l'homme entrent en rapport avec non plus des forces d'élévation à l'infini, par exemple les trois infinis du 17e, mais entrent en rapport avec les trois forces de finitude, la vie, le travail et le langage. L'opération qui compose les forces n'est plus qui compose les forces entre elles, n'est plus le dépli, mais le pli. L'homme se plie sur ses forces de finitude. La question, c'est quelle est la forme qui découle de ce nouveau composé ? Réponse, on l'a vu la dernière fois, là et là seulement, c'est la forme homme. La forme homme, donc, naît et apparaît lorsque les forces dans l'homme entrent en composition avec les forces de finitude et non plus avec des forces d'élévation à l'infini. Voilà pourquoi le 19e siècle pense l'homme. Et finalement, pense tout sous la forme homme. Dès lors, je disais, et je veux aussi la revenir là-dessus très rapidement, je disais, vous comprenez, donc, ça n'est plus une formule facile, au point où nous en sommes, si vous avez suivi notre analyse. Ça n'est plus une formule facile ou gratuite de dire, ben oui, pour le XVIIe siècle, penser c'est déplier. Et pour le XIXe, penser c'est déplier. Si bien que, encore une fois, ça m'intéresse, alors là je reviens à Foucault lui-même. À mon avis, plier, déplier sont, ce que je dirais, des mots, c'est aussi des concepts. Est-ce que je dirais métaphore ? Non, c'est apprendre à la lettre. Ce n'est pas des métaphores exactement. Par exemple, quand il s'agit de savoir si l'on peut passer par pliage du vertébré au céphalopode, mais ce n'est pas une métaphore. Le dépli et le pli, ça aura des usages métaphoriques, notamment dans le style de Foucault. Là, tout le temps, c'est invoqué, là. Mais c'est déjà dans les mots et les choses que ça est plateau. Le pli, le dépli, le pli avec la formation des épaisseurs, ou la découverte des creux. Tout ça, ça anime tout un matériel métaphorique de Foucault, très. Mais c'est beaucoup plus que des métaphores. Qu'est-ce que c'est de plus ? Encore une fois, c'est des opérations, c'est des mouvements géologiques, des mouvements archéologiques. Exactement comme vous parlez du plissement d'une chaîne de montagne. Ah. que vous faites tousser un pauvre enfant à force de fumer. On parle tout le temps de plissement. Mais la géologie, elle ne se contente pas de plisser, elle déplie aussi. Les plateaux, le dépli des plateaux, le plissement des chaînes. Tout ça, bon, ben, y a une géologie de la pensée. Alors, ah bon, ça éclate dans les mots et les choses, ce maniement du pli et du dépli, ce retour obsédant de ces deux thèmes chez Foucault. Mais ce qui devient intéressant, alors, c'est de chercher avant. Et je vous disais, dans la naissance de la clinique, vous trouverez déjà pleinement l'exercice du pli et du dépli. Le dépli étant mis du côté de la clinique, art médical du 17e, et le pli avec la constitution d'une épaisseur morbide, d'un volume maladif, d'un creux de la maladie. Le pli va être mis du côté de ce qui succède à la clinique, à savoir l'anatomie pathologique au 19e siècle. Et vous trouverez déjà dans les sens de la clinique tout ce jeu entre pli et dépli. Si bien que ce sur quoi je veux réinsister, c'est le point suivant. C'est que je crois que ce thème pli-dépli n'a pas cessé de hanter Foucault. Mais il y avait un autre philosophe qui avait précédé Foucault, qui lui-même semblait avoir été obsédé par ce thème du pli-dépli. Et c'était Heidegger. Seulement Heidegger est obsédé par une espèce de doublet pli-dépli dans un tout autre contexte, d'une tout autre manière. On verra quand on parlera un peu, quand on essaiera de faire un parallèle Foucault avec Heidegger, on verra d'où ça vient chez Heidegger. Mais ça ne vient pas du tout du même sol. Chez Foucault, je dirais, ça vient essentiellement d'une conception archéologique des mouvements de la pensée, tels qu'ils se distribuent dans une histoire de la pensée. Cette histoire de la pensée, renvoyant à l'âge classique pour le dépli, et à l'âge du 19e siècle pour le pli. Si bien que quand on sera amené à faire la confrontation, ce sera déjà, et à ce moment-là je ne reviendrai pas sur ce point, ce sera déjà avec l'arrière-pensée que Foucault dispose des notions de pli et de dépli comme lui venant d'un autre horizon que celui de Heidegger. Et je voudrais montrer déjà pourquoi. C'est que le pli et le dépli, on vient de le voir, dépendent de combinaison de forces. Tous les deux dépendent de combinaison de forces. Chez Heidegger, le pli et le dépli sont inséparables d'une position de l'être. Chez Foucault, ils sont inséparables d'une combinatoire de forces. C'est-à-dire, le pli et le dépli, je dirais que Foucault le rend ou les rend à Nietzsche, qui pourtant n'en parlait pas. Mais il les inscrit dans une combinatoire des forces, ce qui est tout à fait étranger à Heidegger. En revanche, qui n'est pas étranger à Nietzsche. Et en effet, c'est inscrit dans une combinatoire des forces, puisque le dépli, c'est l'opération par laquelle les forces dans l'homme entrent en rapport avec des forces d'élévation à l'infini, et le pli, c'est la combinaison d'après laquelle les forces dans l'homme entrent en rapport avec les forces de finitude. Donc, pli et dépli renvoient une combinatoire des forces. Deuxième différence, Alors que je peux dire en très gros, de manière très rudimentaire, parce que notre problème, c'est pas Heidegger pour le moment, je peux dire le pli des plis chez Heidegger a pour fonction de fonder les êtres, de fonder les étants. Chez Foucault, ça a une toute autre fonction, qui est donner aux êtres, aux étants, une forme. Et voyez que les deux vont ensemble. C'est parce que le pli et le dépli naissent et renvoient une combinatoire de forces que dès lors leur fonction. Et non pas de fonder les êtres ou les étants, mais simplement de leur donner une forme. Forme Dieu dans le cas du dépli, forme homme dans le cas du pli. Encore faut-il ajouter, leur donner une forme précaire. Puisqu'en effet, toute forme est précaire. Toute forme est précaire dans la mesure où elle ne dure pas plus que ne dure la combinaison de forces dont elle dérive. Si les forces en rapport changent, s'il y a mutation, ce sera une autre forme. Toute forme est précaire. Si bien que dans les mots et les choses, vous trouvez un texte, page 291, qui m'intéresse beaucoup. Je le lis là, lentement. Page 291. Il n'y a d'être que parce qu'il y a vie. Il n'y a d'être que parce qu'il y a vie. L'expérience de la vie se donne comme la loi la plus générale des êtres. La mise à jour de cette force primitive à partir de quoi ils sont. L'ontologie, dès lors, dévoile moins ce qui fonde les êtres que ce qui les porte un instant à une forme précaire. L'ontologie dévoile moins ce qui fonde les êtres que ce qui les porte un instant à une forme précaire. Sur un tel texte, il y aurait beaucoup de choses à dire, il faudrait arriver à les dire à la fois. Si on prend la lettre du contexte, on se dit, il ne faut pas exagérer, c'est un texte sur Cuvier. C'est un texte qui vient en conclusion de l'analyse de Cuvier, donc à la lettre, je dirais, il vaut pour la biologie du 19e siècle, ou du moins même pas pour la biologie de Cuvier. Et pourtant, j'ajoute, ceci est vrai, il n'est pas question de le nier. Mais en même temps, un texte a toujours plusieurs effets sœurs, c'est le cas de le dire. Comment ne pas être sensible dans ce texte à un clin d'œil où tout se passe comme si Foucault nous disait « Attention, je suis en train de vous dire ma différence avec Heidegger. » Car c'est pas par hasard qu'il emploie des mots qui suscitent dans l'esprit du lecteur la confrontation directe avec Heidegger. Il n'y a d'être que parce qu'il y a vie, et dans ce mouvement fondamental qui les voue à la mort, les êtres dispersés et stables un instant, se forment, s'arrêtent, se figent. L'expérience de la vie se donne comme la loi la plus générale des êtres. Mais cette ontologie dévoile moins ce qui fonde les êtres. C'est pas pour Cuvier que, ou pour pas Cuvier que l'ontologie dévoile ce qui fonde les êtres, c'est une expression sommaire de la philosophie de Heidegger. L'ontologie dévoile ce qui fonde les êtres. Mais cette ontologie dévoile moins ce qui fonde les êtres que ce qui les porte un instant à une forme précaire. Or, bien au-delà de Cuvier, c'est la pensée même de Foucault. C'est la pensée même de Foucault, à savoir, il y a une ontologie. Mais très bizarrement, je crois très fort qu'il y a chez Foucault, mais presque sous-jacent, à peine perceptible, mais pourtant perceptible à bien des égards, il y a chez Foucault une espèce de vitalisme. Il y a chez Foucault une espèce de vitalisme, et on verra qu'il est très étrange, ce vitalisme. Et d'où vient ce vitalisme ? Encore une fois, la formule du vitalisme, si elle convient à Foucault, serait très simple. Toute forme est un composé de force. Toute forme est un composé de force. C'est une formule d'un énergétisme ou d'un vitalisme. Ça revient à dire que la vie est vraiment la loi des êtres. C'est donc tout un déplacement, c'est par là qu'il n'est pas du tout intervenant. Donc, je crois à un vitalisme de la force chez lui. Et vous voyez qu'il en découle tout de suite. Il y a une ontologie, mais l'ontologie, le sens de l'ontologie, c'est pas du tout fonder les êtres, c'est déterminer la forme précaire à laquelle ils sont élevés un instant. Dévoiler la forme précaire à laquelle ils sont élevés un instant, pourquoi la forme est-elle précaire? Puisqu'elle dépend d'une combinaison de forces en mutation perpétuelle. Il suffit que les forces changent pour que la forme précédente s'évanouisse et que surgisse une nouvelle forme. La forme sera précaire puisque la combinaison des forces sera elle-même variable. Vous comprenez ? Toute forme est précaire. La forme Dieu est précaire. Bien sûr, Dieu lui-même dans son existence n'est pas précaire. Il est l'éternel. Mais la forme Dieu est très précaire. Elle ne dure pas longtemps dans notre Occident. Alors pourquoi voulez-vous que la forme homme, elle soit moins précaire? Il n'y a aucune raison. Je vous parlais de ces gens qui veulent toujours que ça s'arrête. Par exemple, les historiens au 19e siècle, les historiens français...